Chapitre 11. Qu'est-ce que c'est les vivants? À première vue, tout n'est qu'évidence. Séparer le vivant du mort, être avec les vivants, être dans la vie, mais qu'est-ce que cela signifie profondément être vivant? Comme Ninon me l'enjoignait. Quand je respire et marche, quand je mange, quand je rêve, quand j'urine, suis-je pleinement vivant? Quand je sens la chaleur brûlante et douce du sexe d'Héléna autour du mien, et que je vois ses yeux qui partent dans l'envers de ses paupières, comme si soudain un long vertige la ravissait au monde, suis-je davantage vivant? Quel est le plus haut degré du vivant? Y aurait-il différents états qui nous permettraient de distinguer si l'on est plus ou moins vivant? Et que nous enseigne notre corps à ce propos? Ne pas se soucier de lui, ne pas le sentir, ne pas s'en préoccuper, est-ce cela être vivant? Ou bien au contraire, suis-je superlativement vivant lorsqu'il me fait souffrir, se rappelle violemment à moi, me maltraite, m'échappe, me tourmente, me fait comprendre que je lui suis assujetti, que ma superbe conscience lui est enchaînée, tributaire, que sans lui elle meurt, qu'elle n'est, quoique prodigieusement complexe et perfectionnée, que l'esclave de ses mécanismes grossiers et de ses hoquets triviaux? La beauté d'Héléna me troublait car elle n'était pas faite pour moi. J'étais un intrus dans son existence, un goujat qui apporte les soucis et le poids de son âge, ses muscles relâchés et sa peau qui commence à se rider comme la surface d'un vieux lac glaciaire sous le vent, à s'étoiler de petites taches de rousseur. Oui, un intrus qui s'invite en titubant au beau milieu d'une fête de la chair où tout n'est que fermeté, grain pur, derme soyeux. Une main avait tordu nos deux courbes du temps, essayant de les confondre, de les unir, mais elles restaient distinctes et étrangères, bien que collées l'une à l'autre. Quand, après l'amour, Héléna venait poser son visage dans le creux de mon épaule et fermer les yeux, je ne pouvais m'empêcher de songer qu'elle s'endormait sur la mort, que j'étais un gisant, mais qu'elle ne le savait pas encore, que nous vivions un conte noir où une jeune femme, frappée par un sortilège, s'éprend d'un squelette dont elle est la seule à ne pas percevoir l'apparence terrifiante. Bien sûr, je ne lui disais rien de cela. Je ne lui disais pas non plus que lorsque je la caressais, je pensais à Florence, à toutes les caresses que j'avais déposées sur son corps à elle, que le temps avait rendu plus onctueux, qu'il avait fatigué, mais d'une fatigue souriante qui me le faisait aimer davantage à mesure que les années passaient. Le corps des jeunes femmes fait songer à des pierres parfaites, polies, sans défaut, scandaleusement intactes. Celui des femmes possède le parfum patiné des jours innombrables, où s'amalgament sensuels les moments de plaisir et ceux de l'attente. Il devient le velours assoupli des années. Laquelle des deux, d'Héléna ou de Florence, me faisait être le plus vivant? Faire l'amour avec Florence me rendait à moi-même. Faire l'amour avec Héléna me forçait à devenir un autre. Il ne s'agissait pas de prendre un nouveau départ, un nouvel élan. Ce qui aurait pu se révéler heureux, mais de s'observer à distance dans un dédoublement aux conséquences calamiteuses. Je savais que notre relation ne pouvait que conduire à faire grandir en moi une amertume qui s'était installée après la mort de Gênes, comme une lointaine cousine de province, revêche et grise, débarquée sans crier gare et qui s'installe chez nous à demeure sans que nous ayons notre mot à dire. On ne sait trop d'ailleurs le but qu'elle poursuit. Nous surveiller, nous narguer, nous faire comprendre quelque chose, nous avertir, nous juger. J'ai lu quelque part que la cinquantaine est la vieillesse de la jeunesse et que la soixantaine et la jeunesse de la vieillesse. On s'arrange comme on peut avec les mots. Ce n'est pas cela qui fait partir la cousine. Pour autant, je ne faisais rien pour chasser Héléna de ma vie, ni pour quitter la sienne. Lâchement, je comptais sur un voyage pour fissurer notre relation, car on sait bien que les voyages à deux révèlent sur l'autre des manies et des comportements que le quotidien dissimule et qui soudain, dans un ailleurs sans amarre, éclatent au jour dans leur insupportable dimension mesquine. Venise m'avait paru la destination parfaite où enterrer notre couple naissant. Elena n'y était jamais allée. Quant à moi, j'y avais mis deux fois les pieds. La première fois avec Eugène, lors d'une mostra, où notre troisième film en commun, Perpendiculaire, avait été sélectionné non pas pour la compétition officielle, mais dans une section parallèle. La seconde, en compagnie de Florence. Avec Eugène, je n'avais pas vu grand-chose de la ville. Nous avions pris le festival de haut, nous moquant de cette grande foire en buvant beaucoup. Je répondais aux interviews, au bord du Grand Canal, sur une terrasse en plein soleil, et j'avais constamment la tête qui tournait en raison du mouvement des gondoles qui passaient et repassaient devant mes yeux et des nombreux verres de spritz que je buvais comme de la limonade. J'avais même essayé de mettre mon poing sur la gueule à un critique italien qui me comparait à François Truffaut, ce qui m'avait profondément vexé. Nous étions jeunes, Eugène et moi, présomptueux, idiots, heureux, légers. La vie ne nous avait pas encore fessés. Je n'avais au final rien vu de la ville. J'avais vomi au retour trois fois dans les toilettes de l'avion, sous le regard réprobateur d'une hôtesse d'Air France, dont le badge affirmait qu'elle s'appelait Marie-France. Avec Florence, nous avions pris le train. Nous étions arrivés au matin, encore engourdis par le balancement des wagons-lits et l'étroitesse des couchettes. Au sortir de la gare, le Grand Canal nous était apparu scintillant, irréel, laqué de rires et de cris, de miroitements et de mouettes. C'était au tout début d'un mois de novembre. Il faisait très beau. La ville s'était vidée de ses touristes. Nous logions dans une pension du Dorso d'Ouro. Le matin, nous prenions notre petit déjeuner au comptoir d'un bistrot, sur les Zattere, non loin de la Santa Maria del Rosario. Et le soir, assis dans un angle du même bistrot, nous mangions ce que le patron sarde proposait, sans demander la carte ni le menu. Ragoût de chèvre, spaghetti à la botarga, risotto à la citrouille accompagné d'un bovale et d'un cannonau. Le midi, nous avions nos habitudes sur le Campo Sant'Angelo et restions longtemps après le repas à prendre le soleil, sirotant de petits verres de limoncello, fumant des cigarettes, nous tenant la main, unis par une légère ivresse et un bonheur qui nous faisait nous regarder sans cesse et nous sourire. Quand nous ne mangions pas, nous faisions l'amour ou nous nous promenions au hasard. Venise est la seule ville au monde où l'on peut s'égarer sans se perdre. Nous marchions dans notre vie autant que sur les pavés. Nous étions heureux sans vraiment le savoir. Je veux dire, sans le savoir à ce point et à ce moment. J'avais mis Elena sur les pas de Florence. Sans le lui dire, j'avais refait avec elle le même périple. Nous prenions le matin un ristretto et des cornetti dans le même bar des Zattere, où nous dînions également le soir. Le nom de l'établissement avait changé et le patron n'était plus sarde, mais friulant. La nourriture restait bonne. Le midi, nous déjeunions sur le Campo Sant'Angelo. Nous mangions des spaghettis alle vongole ou à la langouste. Nous buvions du vin blanc de Sicile et puis de petits verres de limoncello. Je fumais des cigarettes. Elena me prenait la main. Il faisait beau comme avec Florence. Mais c'était le mois de mars. Et Florence n'était plus ma femme. Quant à Eugène, il était mort depuis 2 ans, jour pour jour, ou presque, même si cela ne veut rien dire, les jours pour les morts. Nos pas me faisaient emprunter les mêmes ruelles, traverser les mêmes ponts, nous amener sur les mêmes quais que lors de mon précédent voyage, notamment au bord du Rio de la Misericordia, sur la Fondamenta Ormesini, où la beauté trop célébrée de la ville se goûte davantage, il me semble, parce que là, elle apparaît comme au sortir du bain, naturelle, sans apprêt, défaite d'une distance légendaire, encombrée d'or douteux et de faux brillants. Elena ne pouvait se douter que je la faisais aller ainsi sur les traces d'une autre, sur les pas d'une histoire qui n'était plus. Je marchais en la serrant contre moi, comme j'avais marché sur les mêmes chemins, en serrant contre moi Florence. Le soir, nous faisions l'amour dans la petite pension comme j'y avais fait l'amour avec Florence. J'embrassai les longues cuisses d'Héléna, son sexe lisse entièrement, que j'avais appris à aimer ainsi, son ventre si plat qu'il en était incurvé, souple et tendu comme un cuir de barbier, ses lèvres et sa langue, qui avaient le goût des vins du sud, de fruits forts et de baies noires. Je flottais dans la confusion des heures et des années, me demandant si je voulais réconcilier des moments séparés de ma vie ou salir les uns avec les autres, mettre en joue le passé avec le présent ou l'inverse, inventer un pesage immatériel, une compétition sans public. Je me traitais de salaud. Au fond, je ne savais pas très bien ce que j'essayais de faire en agissant comme cela. Héléna ne se doutait de rien. « Tu me rends heureuse, » m'a-t-elle dit un soir. « Je te mens sans cesse, » lui ai-je répondu. « Eh bien, continue. » Puis elle s'est endormie contre moi, d'un coup, comme une enfant. Le jour de notre départ, nous allâmes visiter la fondation Pinault à la Punta della Dogana. Dans une des dernières salles à l'étage étaient installés les gisants de Maurizio Cattelan. 9 corps dérobés au regard par un drap de marbre blanc. Héléna ne fit presque pas attention à eux. Elle alla vers une fenêtre ronde, admirer la lagune et la Giudecca sur la rive opposée. Quant à moi, je songeais de nouveau au sommeil, à la vie qui se fige, qui s'arrête et se suspend. Depuis que l'humanité existe, on estime à 105 milliards le nombre de femmes et d'hommes qui se sont succédés sur la Terre. Près de 100 milliards ont déjà disparu, dont il ne reste rien. Presque. Les corps cachés à ma vue n'avaient pas la position hiératique et codifiée des gisants du Moyen-Âge. En les regardant bien, on pouvait même prendre certains d'entre eux pour des dormeurs, des couples faisant l'amour et se cachant à notre vue, des victimes d'accidents, d'attentats, de grands brûlés que le feu avait tordus comme des sarments de vigne. Mon regard allait des corps de marbre à celui d'Héléna à sa fenêtre. Je revenais vers les gisants, je passais du vivant au non-vivant, je me disais que ma place à cet instant était au juste milieu de ces deux pôles. J'aurais voulu toucher les corps ou m'allonger près d'eux, soulever un drap de marbre blanc et me glisser sous lui, faire ce geste rêvé et impossible. Mais Héléna s'est alors retournée et m'a souri.